m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonsoir. Chaque année, le journal du dimanche et l'Institut de sondage IFOP publient ce qu'ils appellent le top 50 des personnalités préférées des Français. En décembre dernier, pour la 10e fois, c'est le nom de Jean-Jacques Goldman qui s'est affiché en tête. Étonnant, alors que son dernier album Chanson pour les pieds remonte à 2001, et bien pas tant que ça. Dans ce classement, la discrétion a toujours été un atout, mais aussi parce que ce chanteur, reconnu aujourd'hui comme grand compositeur et grand parolier, est devenu au fil des années un artiste populaire au sens le plus noble du terme, doté d'une image d'humilité et de générosité jamais démenti. C'est cet artiste singulier, icône de la chanson française, de la variété française, sans pour autant être une star, que notre invité a choisi de placer au centre de son premier roman, Jean-Jacques, de Caroline Azan.
Karine
Azan, est publié chez HarperCollins, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Karine Azan.
Bonjour Jean-François.
C'est bien Karine, on est d'accord. Alors vous évoquez dans le roman, au détour d'un chapitre, ce fameux top 50 des personnalités des Français. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça vous fait pas tant plaisir que ça.
Ben, c'est vrai que je pense que comme beaucoup de fans, on a, même si c'est un mot dont je parle dans le livre et qui est à déconstruire.
On va y revenir longuement, évidemment.
Mais je pense que comme toute personne qui est amoureuse, on a envie d'une exclusivité. Et dans ces cas-là, on n'est pas très partageur, quoi. Quand on se rend compte que la Terre entière, enfin la France entière, l'aime en même temps que nous, il y a quelque chose à la fois de très beau, parce qu'on se dit, ce mec a quelque chose vraiment pour...
Donc j'ai un petit peu raison, quelque
donc
part.
J'ai un peu raison, et en même temps, on préférait le garder pour soi.
Je vous dirai ma vie dans son nul plus blême, dans les matins pâlis où plus rien ne protège. Je vous dirai mes cris jusqu'au plus imbécile, je vous livrerai tout jusqu'au bout de mes cils. Tous mes gestes promis, tout ce que je pense, de mes coups de colère à mes coups de romance, en toute complaisance, en toute impudeur, compte rendu fidèle de toutes mes heures. J'avouerai tous les trucs interdits, les méthodes, je vous dirai les clés, vous livrerai les codes, les secrets inconnus à lire entre les lignes, les talismans perdus, les chiffres et les signes, mes arrière-pensées avec inconscience, mes goûts et mes dégoûts et tous mes coups de chance, même sans intérêt, même un peu facile, mes fantasmes enterrés, mes idées les plus viles. Mais je ne vous parlerai pas d'elle, je ne vous parlerai pas. Elle est à côté de moi quand je me réveille. Elle a sûrement un contrat avec mon sommeil. Je ne vous parlerai pas d'elle. Elle est mon sol, elle est mon ciel. Elle est là même où mes pas ne me guident pas. Et quand je suis pas là, elle met mes pyjamas. Elle est plus que ma vie, elle est bien mieux que moi. Elle est ce qui me reste quand je fais plus le poids. Je ne vous parlerai pas d'elle.
Je ne vous parlerai pas d'elle. Jean-Jacques Goldman dans VMDN sur RFI avec Karine Azan pour son roman Jean-Jacques, publié chez HarperCollins. Alors c'est une de vos chansons préférées, hein. Elle est sortie en 1982, elle figure sur le deuxième album du chanteur. Alors il y a plusieurs versions, vous racontez d'ailleurs dans le livre, c'est celle-ci ou pas qui vous parle le plus?
Non, celle-ci, je pense qu'il l'a enregistrée plus tard, parce que la chanson, enfin la vraie, j'ai envie de dire, elle date de l'album Quand la musique est bonne, et il a une voix plus aiguë, il est moins chevronné, moins professionnel, moins ondulant que ce qu'on peut entendre là.
D'accord, parce que là on a vraiment l'impression que tout est déjà installé, qu'on a le vrai Jean-Jacques Goldman.
Absolument, absolument, et moi je crois que ce qui m'émeut, c'est justement les premières années, en fait, où on sent une énergie fulgurante, une urgence à exister, et où tout n'est pas complètement propre et en place, quoi.
Alors qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette chanson-là?
Je trouve qu'elle est très pudique, elle est très délicate, il y a quelque chose de très joli à dire, moi je vais vous parler de moi, mais je vais pas vous dire Je vais pas vous dire comment est la femme que j'aime. Je trouve que c'est assez joli. Et puis, je sais aussi qu'elle est en alexandrin. Et donc, quand on me disait que Jean-Jacques Goldman, c'est que Jean-Jacques Goldman, je me disais, quand même, il a quand même aussi écrit des alexandrins. Bon, même si... voilà. Non, je crois que c'est... Et puis, c'était une chanson, en tout cas, pas cette version-là, pardon. Pas cette version-là, mais... où il a une voix un peu aiguë, où il frôle la fausse note, où il est un peu fragile comme ça. C'est ça qui me...
Donc il est un peu humain, quoi.
Voilà.
Voilà. Et on sent que c'est une chanson, sans tout de suite, que c'est une chanson qui vous parle, puisque vous avez choisi de placer quatre alexandrins, une strophe en épigraphe du livre. Vous pouvez nous chanter ces quatre alexandrins,
Karine Azan?
Non, nous les dire alors.
Je vous dirai ma vie dans son nu le plus blême, dans les matins pâlis où plus rien ne protège. Je vous dirai mes cris jusqu'au plus imbécile. Je vous livrerai tout jusqu'au bout de mes cils.
Voilà, épigraphe donc de ce roman que vous avez intitulé sobrement Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, déjà, appeler le livre ainsi, c'est déjà une façon d'instaurer une relation de confiance, de proximité avec lui. C'est une façon de dire, tu es de ma famille?
Oui et non, parce que c'est un Jean-Jacques en minuscule. Donc ce n'est pas vraiment le Jean-Jacques Goldman qui existe, qui est vrai, que vous pourriez recevoir dans ce studio. C'est vraiment le...
Il ne fait pas beaucoup de médias depuis quelques temps, mais s'il a envie de venir, Jean-Jacques, si tu nous entends, n'hésite pas à venir.
Non, mais en gros, c'est plus la petite créature que les fans se fabriquent à l'intérieur d'eux, quoi, et qui n'ont pas vraiment un rapport... À la véritable personne, à la véritable personnalité du chanteur, en fait.
Mais une petite créature ou une grande créature? Parce que parfois vous l'appelez Dieu.
Oui, mais en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis un peu laissée porter et je me suis rendu compte, en fait, que je cherchais quelque chose qui n'existait pas, qui n'existait plus ou qui existait peut-être, mais qui n'était probablement pas Jean-Jacques Goldman, qui était d'essayer de comprendre l'énigme de mon adolescence, d'essayer de comprendre l'énigme de l'amour, d'essayer de comprendre le sens de toutes nos agitations et d'essayer de, peut-être d'une certaine manière, de rechercher une forme de sacré.
C'est ça être fan d'ailleurs, c'est avoir un dieu mais l'appeler par son prénom minuscule en plus.
C'est une très jolie définition, mais alors je voudrais quand même revenir sur le terme de fan parce que c'est un mot que...
Il est au cœur de tout le roman.
Oui absolument, mais j'essaye justement de le déconstruire et c'est marrant parce que pour avoir parlé à d'autres gens, d'autres fans de Goldman, il y en a beaucoup qui récusent ce mot et qui disent non, moi je suis un admirateur respectueux, moi...
Parce que le mot fan c'est infamant, c'est pas à la mode, c'est pas bien d'être un fan et de l'assumer?
Je pense que pour beaucoup il peut y avoir une connotation comme ça de familiarité justement et peut-être que Goldman n'invite pas à ça parce que lui-même est quand même assez, assez respectueux et assez modeste et on n'a pas envie... Et puis assez distant, justement, et pudique sur sa vie privée, donc on n'a pas envie de l'emmerder et de l'appeler Jean-Jacques en lui tapant dans le dos, quoi.
Non, bon, en tout cas, c'est vrai que le phénomène fan et votre rapport à l'adolescence est vraiment au cœur de votre récit. Dès le premier chapitre, dès Linky Pitt, d'ailleurs. Linky Pitt, c'est « Je déteste les ados », donc là, au moins, c'est clair. Et vous continuez en parlant de l'adolescence comme, je cite, « d'un délabrement psychophysiologique temporaire », donc vis-à-vis... de Jean-Jacques, la Karine du livre. Je sais pas si c'est la Karine dans la réalité, mais la Karine du livre, elle s'est vraiment comportée comme une vraie ado ou pas tant que ça?
À l'époque, en tout cas, de 13 ans à 16 ans, oui, j'étais une fan. Mais en même temps, j'arrivais pas à placarder des photos de lui dans ma chambre parce que ça n'avait pas de sens. Mais dès qu'il sortait un album, je l'écoutais religieusement, j'apprenais les chansons, les textes religieusement, j'ai été à tous ses concerts.
Vous écrivez des poèmes.
Il n'y a
pas les affiches, mais parce que les affiches, c'est trop public, en quelque sorte. Par contre, dans votre journal intime, vous y allez.
Oui, bien sûr. Je pense qu'à 13 ans aussi, on s'ouvre comme ça à des choses qu'on ne connaît pas et on préfère choisir un amour impossible avec quelqu'un d'inaccessible parce que ça fait beaucoup moins peur. Et voilà, et du coup, moi j'ai choisi ce chanteur qui finalement est un homme sans être un prédateur, est un grand frère sans être un gourou. C'est quelqu'un qui invite pour le coup, qui invite à la réflexion et à l'introspection, qui est pas un chanteur à minette, qui parle de beaucoup de thèmes de société et puis de beaucoup de choses qui nourrissent hommes ou femmes d'ailleurs, filles ou garçons et ados ou pas, qui parle de courage, d'espoir, d'exil, de rêve, d'ambition, de chance. Donc voilà.
Jean-Jacques Goldman dans VMDN sur RFI, vous évoquez, Karine Azan, quelque chose de singulier qui se passe que vous avez 15 ans pendant cette chanson lors d'un concert que donne Goldman dans les arènes de Fréjus à la mi-août 88, on est dans le sud de la France. Entre vous et lui, à ce moment-là, il y a justement un signe. Il se passe quelque chose. Ça, c'est extrêmement romanesque, comme ça vous est vraiment arrivé.
Mais
ou bien
oui.
C'est pas du tout l'imagination de la romancière.
Non, là vraiment, en fait, c'est un souvenir qui a surgi pendant l'écriture, justement, où je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a eu ça.
Vous êtes rendu compte de ça à ce moment-là, où on écrit le livre.
Oui, parce que je m'en souvenais, enfin, mais ça, c'était un non-événement pendant toutes ces années de trahison et de déloyauté vis-à-vis du chanteur. Et j'y ai repensé et je me suis dit, c'est vrai que c'était quand même marrant. Et comme là, j'étais dans le processus d'essayer de donner du sens, en fait, à tout ça, je m'en suis servi, ouais.
Alors, les concerts, vous les vivez comme des retrouvailles amoureuses, vous êtes dans la fosse, évidemment, hein, et vous criez des Jean-Jacques, je t'aime à tue-tête. Est-ce que, rétrospectivement, avec le recul que vous avez maintenant, votre rencontre avec lui, à travers ses concerts interposés, à travers ses disques, ressemblait à une rencontre amoureuse?
C'était à la fois, comme j'y allais souvent seule, je le ressentais toute seule, enfin de lui à moi. J'y suis allée aussi avec des copines, souvent. Mais de toute façon, c'était aussi un moment de joie collective. Enfin, indéniablement, quand le zénith est plein à craquer, vous n'êtes pas seul. Hein, donc, mais c'est vrai qu'il y avait comme ça un centre de gravité qui pouvait se déplacer selon les chansons, selon les moments, quand tout était plus silencieux et que les chansons étaient plus calmes, ou quand il y avait vraiment, quand il invitait le public à applaudir et chanter avec lui. Là, oui, non, on n'est pas seul quand même.
Bon, vous n'êtes pas seul et en même temps, avec, vous prenez beaucoup de recul quand vous écrivez le roman. Il y a beaucoup d'ironie dans le texte, notamment d'ironie sur vous-même. Vous écrivez « Je me consumais d'amour pour un maigrichon à votre chèvre ». Où vous parlez d'un chanteur aussi érotique qu'un éclairage de supermarché, ce qui est au passage moyennement sympathique pour Jean-Jacques, comme vous l'appelez. Cette ironie-là, vous l'avez ressentie au moment de l'écriture du livre, beaucoup plus tard, ou c'est déjà ce que l'adolescente que vous étiez ressentait?
Oh non, c'est plus tard, je pense que pour
vous
le coup...
Vous étiez très premier degré,
oh
pour
oui,
le coup.
Oui, oui,
hein.
Bien sûr, et puis je tiens quand même à dire que cette ironie, elle vise plus la narratrice que le chanteur.
Absolument.
Soyons clairs. Parce que, voilà, je vais pas me permettre de dire ça... Enfin, ça n'a pas de sens. C'est vraiment plus pour dégrader le goût que la narratrice a et qui.
Oui, parce que c'est pas facile, hein, dans votre milieu, de dire, d'assumer en quelque sorte cet amour au sens en tout cas prosaïque du terme pour un chanteur que Goldman, vous n'étiez pas prédestiné à l'apprécier.
Prédestiné. Ben peut-être un peu, mais c'est vrai qu'en grandissant, après, quand j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir plein de choses et tout ça, c'est vrai que là, ça paraissait un peu plus, assez absurde et incongru, alors que vous aviez tellement de choses, d'autres choses à découvrir et à aimer, de continuer à s'obstiner.
Et vous dites qu'à peu près dans les mêmes années, vous avez aussi adulé Gainsbourg et vous avez voté, ça n'a rien à voir.
Oui, oui, ça n'a rien à voir. Ben, je pense que pour le coup, on ressent, il y a les chansons et puis il y a les personnages et, Gainsbourg, c'était quand même, disons qu'il il m'interdisait d'imaginer quoi que ce soit avec lui, parce que, bah oui, parce que.
Vous n'avez pas les hommes à tête de chou, parasés.
Mais lui, probablement qu'il ne m'aurait absolument pas regardé, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il était entouré de telles icônes sublimes de beauté, sexuelle, enfin. Que pour une ado qui se construit, c'était très difficile.
Donc pas
de
aussi accessible que Jean-Jacques Goldman.
Oui, c'est ça. Je pense que Goldman, il avait en tout cas cette figure de type abordable. Déjà, il a gardé son prénom, qui est pas particulièrement un nom de scène. Ébouriffant, il n'a pas quand il était sur scène, il était habillé comme vous et moi, ben, en l'occurrence. Il a cultivé ce côté très accessible.
Et accessible pas... aussi aux personnes d'un milieu populaire.
Oui, absolument.
Qui, et là aussi, vous en parlez, parce que vous êtes élève à ce moment-là, quand vous êtes ado, d'un lycée parisien assez chic.
Oui.
Et vous dites que votre amour de Goldman trahissait un goût de classe.
Ben un petit peu, je pense. Un goût de classe, un petit peu, parce que juste avant, j'étais dans un lycée plus populaire, enfin un collège plus populaire. Et oui, je pense que c'est un marqueur social. Et je pense que dans certaines classes sociales, c'est un petit peu méprisant. Mais après, il y a aussi des gens de CSP+ qui vont aimer et qui vont, contrairement à moi, l'assumer complètement. C'est-à-dire qu'il y a une collusion entre un rapport de classe et aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez légitime ou pas? Est-ce que vous acceptez vos goûts ou pas?
Voilà, et c'est le cas d'Yvan Jablonka, l'écrivain et historien qu'on a reçu il y a quelques jours à peine dans cette émission. Yvan Jablonka qui publie un récit intitulé « Un garçon comme vous et moi » aux éditions du Seuil. Et il nous a dit combien Goldman avait compté dans sa construction personnelle, par exemple avec une chanson que vous connaissez forcément, qui s'appelle « Comme toi », qui parle avec beaucoup de retenue, de pudeur, d'une petite fille morte dans un camp nazi et qui résonne avec l'histoire de sa famille de juifs ashkénazes. Vous aussi, cette dimension-là vous a touché, cette chanson-là, Karine Azan?
Ah bah oui,
pour les mêmes
sûr.
Raisons.
Oh bah oui, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, j'ai du côté de ma mère, je suis ashkénaze et cette chanson, elle était... Oui, mais je pense qu'elle a touché même plein de gens qui n'étaient pas juifs non plus. Enfin, c'est là où une chanson est belle, hein. C'est quand elle sort c'est quand elle devient universelle.
Et pourtant, à la première écoute, on ne sait pas exactement, forcément, de quoi cette chanson parle.
Oui, 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 mais elle, c'est l'une des rares chansons, d'ailleurs, je trouve, qui, en tout cas, à cette période, parce qu'après, il en a fait des, qui ressemblaient, mais c'est une des rares chansons qui raconte un personnage avec un prénom qui nomme, qui s'inscrit dans un récit, alors que les autres sont peut-être plus des chansons plus générales, plus où on tutoie la personne dont on parle et où on s'ancre pas dans un personnage comme ça.
Voilà, mais au-delà de cette chanson, Yvan Jablonka a aussi évoqué dans l'émission ce qu'il appelle dans le livre la morale Goldman.
Ah.
Un grand mot, hein. La morale Goldman, et qu'il résume ainsi: n'oublie jamais d'où tu viens, travaille en silence et tu arriveras à quelque chose. C'est une formule que vous reprendriez à votre compte, Karine Azan?
Bah oui, c'est vrai qu'il est, il a des, il cultive les valeurs quand même de courage, d'espoir, de ténacité, d'ambition, de chance aussi, de cultiver sa chance, de pas lâcher ses rêves. Ça, c'est hyper important. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué, ça.
Et ça vous a servi dans la vie de tous les jours, justement, cette morale Goldman, pour reprendre l'expression de Jablonka?
En tout cas, elle m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et oui, j'ai envie de croire qu'en travaillant et en étant dans les bouquins et en y croyant, on peut essayer d'être un tout petit peu heureux.
Voilà, il appelle ça les quatre piliers, hein, de cette morale: un parti pris de modestie, un idéal méritocratique, la douceur et la nécessité de la gratitude. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait du livre de Jablonka, Karine Azan. Il concerne le premier pilier, un parti pris de modestie. Nous sommes à la page 202.
Les chansons de Goldman ne consacrent pas des héros, mais des gens discrets et anonymes qui refusent de se mettre en avant, quel que soit leur mérite. La prétention est une erreur, la vantardise une faute. Au contraire, dans la vie, il est nécessaire de faire profil bas, de reconnaître que l'on est, comme le rappelle la quasi-totalité de ses albums, démodé, minoritaire, non homologué, entre gris clair et gris foncé. Cette modestie, Goldman la met en œuvre dans sa propre vie. Refusant le clinquant, le fric, la vaine notoriété que promet la presse people, le règne des apparences, ou prêtant son talent à d'autres stars, Céline Dion ou Johnny Hallyday, pour lequel il a écrit certains de leurs plus grands succès. Autre fait remarquable, le livret du CD de sa compilation Singulier reproduit dans un cahier central les railleries condescendantes, faites pour blesser, que des journalistes lui ont décochées dans les années 1980. Néant des décibels, ritournelle navrante, gentillesse qui confine à la mièvrerie, fait rêver les petites filles, etc.
Ouais, c'est là que je voulais revenir, Karine Azan, parce qu'on se rend pas compte aujourd'hui, elle est tellement populaire en France, Jean-Jacques Goldman, on se rend pas compte à quel point il a été pilonné par la critique musicale, la critique rock particulier, hein, dans les années 80.
Oui, oui, il y avait un mépris. Mais c'est aussi, je pense qu'il parlait aussi beaucoup de lui quand il disait non homologué, je suis pas un vrai rocker, je serai jamais. Enfin, dans ses chansons. Quand il disait justement qu'il était minoritaire, et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait il a parlé de lui, mais ses chansons sont tellement belles et qu'elles ont eu une portée comme ça. Je pense qu'il n'avait pas du tout, enfin j'en sais rien, je ne vais pas parler à sa place, mais j'ai pas l'impression qu'il imaginait un jour qu'on pourrait écrire une morale Goldman. Je pense que pour le coup, il a parlé de lui avec une lucidité, une sincérité et justement sans faux semblant.
Bon, vous avez les yeux qui brillent là, hein, quand vous évoquez votre Jean-Jacques, Karine Azan, et pourtant, hein, on le disait, hein, c'est pas toujours très très valorisant dans le contexte de l'époque, quand on est une ado, de dire j'aime Goldman, à tel point que vous finissez par le cacher, par ne plus l'assumer ouvertement. Vous disiez, pas d'affiche de fans dans votre chambre d'ado, et vous avez une volonté de décrocher, comme on le dirait, d'une toxicomane.
Oui.
Quel a été le déclic, justement? Qu'est-ce qui vous a fait dire, il faut que je me déshabitue de la drogue Goldman?
En fait, c'est en rentrant d'un concert, le dernier concert où j'ai été, où j'étais tellement malheureuse, quoi. Où en fait, tout d'un coup, vous faites face à la réalité des choses, et vous vous dites, mais cet amour est impossible. Donc j'arrête d'en souffrir plus longtemps, parce que c'est pas possible.
Bon,
donc,
pas facile quand même, parce que décrocher d'une drogue, il y a des rechutes.
Forcément, oui, il y a des rechutes. Donc surtout un chanteur comme ça, populaire, qui passe sur les ondes tellement souvent, oui, les rechutes, elles sont là, au coin de la rue.
Ouais, donc ça veut dire que quand vous passez devant une affiche de concert, vous avez un petit pincement au cœur, quand vous tombez sur la presse people.
Non, c'était pas la presse people, c'était surtout parfois j'avais des gens qui se souvenaient et qui étaient gentils et qui venaient me voir et qui me disaient, mais tu sais, t'as pas écouté son dernier album, il est super, et ils me filaient la cassette.
Ah, il faut se méfier des autres fans. Oui, c'est comme quand on arrête de fumer, les autres fumeurs, forcément, ils deviennent moins fréquentables.
Donc c'était un petit peu dur à ce moment-là de dire non, donc voilà. C'était surtout dans ces moments-là, parce que j'ai pas le souvenir, de voir des affiches de ses concerts.
Bon, il y a une autre scène qui est assez drôle aussi, c'est quand vous vous apprêtez à vous marier.
Ouais.
Et vous avez presque l'impression qu'avouer ça à votre compagnon, c'est une responsabilité écrasante.
Là encore, j'ai vraiment grossi le trait.
Ah, un petit peu, vous me rassurez quand même.
Mais c'est vrai qu'il était assez surpris, je pense, parce qu'on s'est connus aussi en parlant de free jazz et de choses comme ça, en allant au festival de jazz de Marcillac. Donc il a été un petit peu surpris, oui, mais il s'en est remis depuis.
Bon, mais c'est un peu par sa faute que vous allez replonger, en tout cas dans le roman. Vous venez de vous installer avec lui à Marseille, dans le sud de la France. Nous sommes à la page 27 de votre livre.
Le soir de mes 40 ans, nous étions installés dans cette ville depuis 428 jours et j'étais enceinte d'environ 6 mois lorsque mon compagnon me dit sur le ton le plus anodin possible « Si tu veux, pour ton anniversaire, je peux te faire rencontrer Jean-Jacques Goldman. Tu sais que c'est notre voisin ? À vol d'oiseau, il habite à moins d'un kilomètre de chez nous. » Il venait de l'apprendre. Goldman était récemment devenu Marseillais. Soudain, le temps se figea, l'air se fit liquide. Les années d'amnésie forcée fondirent comme neige au soleil. Les voûtes célestes percèrent au-dessus de moi un morceau d'infini. 1000 papillons bleus et jaunes jaillirent devant mes yeux incrédules. De lourdes portes s'ouvrirent, raies de lumière éblouissante, trompettes et harpes radieuses. L'évocation inespérée venait de rendre possible la rencontre divine. Pour les amoureux véritables, il n'y a pas de hasard. Goldman était venu vivre à Marseille, comme moi. S'y était-il installé pour me consoler de mon douloureux exil ? M'avait-il suivi pour me soutenir dans l'épreuve ? Se rapprochait-il de moi pour m'envoyer un signe réconfortant ? Près d'un quart de siècle plus tard, je laissais éclater ma joie, bondissant littéralement à la perspective de ce cadeau prodigieux, et remerciais avec une gratitude inédite mon compagnon pour son idée surnaturelle. Je le vis ravaler un rire gêné. Il blaguait. Bien sûr, silence. Les particules d'air soudain se densifièrent et tout once d'humour et de couleur disparut. J'étais scandalisée et refusais d'admettre que le futur père de mon enfant fût capable d'une telle cruauté. Comment avait-il pu ? Comment avait-il osé plaisanter sur un tel sujet ? Je préférais considérer sa pitoyable farce comme une marque d'inconscience et lui demander de ne plus évoquer le chanteur devant moi. Face à ma déception, une lueur amusée traversa son beau regard et je compris plus tard qu'il avait mis mon indignation sur le compte du second plus important bouleversement hormonal qu'une femme puisse jamais éprouver après celui de l'adolescence, le cataclysme de la grossesse. Nous ne reparlâmes jamais de cet épisode, aussi céleste que décevant. Puis ma fille aînée, faisant fleurir autour d'elle ses joyeuses soirées à écouter des airs de musique en famille et à chanter et danser ensemble. Et là, de façon de plus en plus régulière, après les morceaux sélectionnés par mon compagnon, Stevie Wonder, The Mamas and the Papas, puis ceux choisis par ma fille, Anne Sylvestre, La Reine des Neiges, à mon tour, je choisissais des morceaux sur YouTube et leur passais immanquablement une chanson de Goldman. Et chose incroyable, j'assumais. Ma récente condition de mère m'avait-elle affranchie des faux-semblants bienséants que j'avais fait miens pendant toutes ces années ? Étais-je enfin en mesure de m'accepter pleinement, moi et mon passé honteux ? À présent que je consacrais du temps à l'éducation de mon enfant, m'émancipais-je de l'injonction de grandir et de m'éduquer jusqu'à la fin des temps ? M'autorisais-je enfin un peu de divertissement ? Quoi qu'il en soit, les mois, les semaines, les jours passèrent et les signaux que j'émettais viraient de plus en plus au rouge, m'alertant sur des faits que je ne pouvais plus longtemps occulter. J'avais vécu toutes ces années en état de manque quasi permanent. L'étrange maladie ne m'avait jamais quitté.
Et c'est le déclic. Karine Azan, on arrive à la fin de ce chapitre, là, avec la phrase qu'on vient d'entendre. On tourne la page et le chapitre suivant, il s'appelle « Bas les masques ».
Oui. Oui, c'est le déclic parce que j'ai été la première surprise, je crois, par le choc de la proposition, de la mauvaise blague de mon mari. Et ça m'a... j'ai eu envie du coup de creuser un peu quelques années plus tard quand même. Voilà, j'ai attendu un an ou deux après.
Et vous décidez donc dans la foulée, donc un an ou deux, de partir à la recherche de votre Jean-Jacques. C'était un besoin presque physique. de le voir, de mettre un visage, de pouvoir lui serrer la main ou peut-être de lui sauter au cou.
Bah, disons que c'était une manière pour moi aussi de réapprivoiser Marseille, parce que en fait je vivais un exil, aussi nanométrique soit-il. Pour moi c'était un vrai exil, et disons que ce projet de chercher Goldman, presque plus que de le trouver d'ailleurs, mais de le chercher dans les rues de Marseille, c'était une façon pour moi de pouvoir me réconcilier avec cette ville, d'y trouver une forme d'intérêt, d'excitation, de curiosité, et d'arpenter ces rues en me disant peut-être que un jour je m'y sentirai bien.
VMDN sur RFI avec Karine Azan dont le personnage. Karine décide à 40 ans donc d'aller au bout de ses rêves et de retrouver coûte que coûte Jean-Jacques Goldman, son dieu, même s'il a vieilli, ce qui est quand même assez rare pour un dieu, son idole de jeunesse, hein, qui serait donc venue s'établir dans la région de Marseille où elle-même a élu domicile comme un signe du destin. Et votre personnage, hein, vous le disiez légèrement il y a quelques minutes, Karine Azan, votre personnage porte un regard particulièrement sévère sur Marseille. On se dit, ouais, mais c'est pas possible, quoi. Si vous retournez à Marseille après avoir publié ce livre, vous allez vous faire caillasser, quoi. C'est vraiment si terrible que ça, Marseille?
Non, alors c'est peut-être un peu terrible au début, mais pour le coup, je pense qu'il y a une résilience, enfin, j'espère, au fil du récit et à la fin.
Oui, la phase évolue, mais au début, quand même, c'est gratiné. Marseille, championne de France de particules fines, ce qui est vrai, d'ailleurs, sans doute, vous avez vérifié. Je ne comprends pas, écrivez-vous, qu'on puisse venir à Marseille pour voir Marseille, une ville déclopée de l'âme. Marseille tout entière m'est incompréhensible. Je continue, hein. Qu'on ne me demande pas de me pâmer devant le vieux port, le cours Julien, la Canebière et ainsi de suite. Cette ville ressemble à ma tête. Elle m'enferme et m'assène ce réalisme décourageant. Qu'est-ce qui a été si difficile pour la Parisienne que vous étiez dans votre apprentissage de la cité phocéenne?
Je pense que ce qui a été difficile, c'est que précisément, c'est une ville d'exilés, c'est un port, c'est une ville où beaucoup de gens ont eu des rêves qui ont échoué. Et je crois que que toute cette dimension-là, justement, de difficulté, où les rêves se brisent et où les promesses d'une vie meilleure n'arrivent jamais, je pense que c'est ça qui m'a blessée. En fait, pour le coup, c'est une ville qui est un peu moqué, surtout quand on est à Paris. Hein.
Oui, bah il y a une vraie guerre entre Marseille et Paris, ça date pas d'hier.
Ouais,
et récemment, avec la pandémie, on en a beaucoup parlé.
Mais c'est vrai que c'est une ville qui, pour le coup, à côté de Paris, a un côté un peu illégitime. Et je crois que c'est cette illégitimité-là qui me qui m'a fait mal, en fait.
Et vous l'avez ressenti, là, justement, à travers la pandémie, à travers la défiance des autorités locales, marseillaises ou provençales dans leur ensemble par rapport à Paris, à travers toutes les polémiques autour du professeur Raoult ?
Oui, bon, le professeur Raoult, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est vrai que, par exemple, quand, en septembre, je crois, on a été la première ville à avoir un couvre-feu,
à forcer les restaurateurs
voilà.
à fermer plus tôt.
C'est vrai qu'il y avait, moi qui suis née à Paris et qui ai été parisienne pendant plus de 30 ans, c'était la première fois que je ressentais une décision comme ça qui venait de loin. Et je me disais, c'est vrai que c'est pas très sympa, en fait, quand on est en province et qu'on se prend dans la tronche des décisions comme ça, voilà. Mais pour le coup, je pense que oui, Marseille, c'est... Comment dire, ça a été une ville qui a été longtemps reniée, moquée, qui est à la pointe de la France, qui a du mal à trouver sa place. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui réverbéraient un peu mon sentiment par rapport à moi, en fait.
Et c'est dans ce décor marseillais que l'on bascule dans une enquête avec des pistes qui avancent tout de suite, d'autres qui n'aboutissent à pas grand-chose. Alors c'est assez drôle parce que très souvent les pistes que Karine suit, elles lui sont refilées par des camarades qu'elle retrouve, oui. Des camarades de classe notamment qu'elle retrouve pour son enquête. Alors il y en a un ou une, je ne sais plus, qui dit avoir vu, qui connaît quelqu'un qui a vu Goldman acheter du poisson sur un marché. Et il y en a un autre qui s'appelle Édouard, dont l'épouse, je cite, a une amie qui connaît une femme dont la voisine a vu Jean-Jacques venir chercher ses enfants dans une école du quartier du Prado. Bref, il y a toute une série d'espoirs déçus. Vous racontez cela avec toujours cette ironie, ce recul sur vous-même qui est particulièrement réjouissante. C'est un livre sur Jean-Jacques, c'est un livre sur le phénomène fan, mais c'est aussi surtout un film aussi sur vous et sur votre façon d'appréhender le réel et la fiction aussi, parce que vous êtes une femme d'image.
Oui.
On l'a pas encore dit, Karine Azan, mais vous êtes une femme d'image puisque vous êtes réalisatrice, vous avez signé quelques courts-métrages, vous êtes scénariste aussi, et très vite vous visez l'idée de filmer.
Oui.
Cette enquête, cette quête de Jean-Jacques, le film. C'est un procédé narratif pour le roman ou il a réellement existé ?
Non, en fait, il a failli exister, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'avoir un projet de roman, j'avais un projet de film documentaire et j'en ai parlé à mon compagnon et du coup, j'ai commencé. Il m'a dit, c'est une super idée, vas-y, fonce. On avait vu des mockumentaries qui nous réjouissaient pour le coup, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé à écrire une note d'intention pour demander des sous à la région. Et en fait, j'ai fait lire ma note d'intention toujours à mon mari. Et en fait, il m'a dit, mais non, mais... écrire un roman plutôt, c'est bien, parce voilà. que ma note d'intention faisait 15 pages et...
Ah oui.
Oui, oui, mais c'est le premier chapitre, en fait, du roman, pratiquement, à peine retouché. Et du coup, c'est un procédé que j'ai voulu garder parce que je trouve que, enfin, on a vu 1000 films avec des gens qui écrivent un roman et qui portent le titre éponyme du film et dont la personne, mais que la personne publie à la fin du film et voire signe à la fin du film. Et je trouvais rigolo et amusant, de faire entrer le cinéma dans un tout petit morceau de littérature.
Oui.
Et
vous avez eu raison, parce qu'il y a des moments vraiment extrêmement drôles. Hein. Vous faites un casting pour trouver des sosies de Goldman. C'est particulièrement gratiné parce que le sosie le plus ressemblant ressemble au chanteur Carlos. Donc on est quand même assez loin de l'image de Jean-Jacques Goldman. Il y a une scène complètement déjantée sur la plage. Enfin bon, on va pas tout raconter, mais c'est vraiment fantasmagorique. C'est drôle. Oui, c'est déjanté. Et en même temps, on rit beaucoup et on découvre en creux la dureté de la vie des intermittents.
Oui.
Des soutiens du cinéma, tous ceux qui, pour l'amour de l'art, se lancent dans des projets complètement fous avec des bouts de ficelle. Mmh. Il vaut mieux en rire ou il vaut mieux en pleurer de cette situation-là ?
Ben, on va dire un peu les deux. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à... Enfin, j'ai toujours terriblement peur de faire chier les gens. Donc, je préfère d'abord essayer de les faire rire pour après balancer des choses un peu plus lourdes. Mais oui, c'est clair que dans le cinéma, vous avez une branche ultra fauchée qui vivote comme elle peut dans le cinéma et aussi dans le spectacle vivant et chez les musiciens, enfin partout. Mais dans le cinéma, c'est encore plus contrasté parce que vous avez cette espèce d'Olympe de gens qui sont très très...
Voilà, vous avez les stars qui se baladent sur la croisette lors du Festival de Cannes, et puis vous avez ceux qui galèrent à faire leur premier court-métrage sans un sou en poche.
Voilà, et je pense aussi beaucoup aux comédiennes et aux comédiens, pour le coup, parce que vous avez des merveilles de comédiens et de comédiennes, et puis là, en plus, bon, c'est compliqué.
Un roman et un scénario de cinéma, puisque vous avez écrit des scénarios, ça se ressemble ou ça n'a rien à voir ?
J'aime bien cette question. Ben, en fait... Pour le coup, quand j'écris des scénarios, j'essaye d'anticiper beaucoup le parcours du personnage, d'être vraiment dans quelque chose d'assez rigoureux et d'architecturé, de structuré. Et là, c'est vrai que je me suis autorisée avec ce projet de roman un espace de liberté et où je me suis dit, j'y vais et je vais voir où je vais aller, et puis de toute façon, je réécrirai derrière. Et donc, c'était finalement assez différent de mes expériences d'écriture scénaristique, parce que je savais pas forcément où j'allais quand j'ai écrit. Je dis pas du tout que j'ai écrit au fil de la plume, parce que j'ai quand même structuré, mais dans un second temps.
Voilà, en tout cas, dans la deuxième moitié du livre, il y a des vraies scènes de cinéma, il y a une scène de planque, notamment, qui fait vraiment référence au film noir. Avec beaucoup d'humour et d'ironie. Là aussi, alors on dira pas évidemment si dans le roman Karine arrive à retrouver Jean-Jacques ou non. On va pas spoiler pour reprendre un terme de cinéma, mais il se trouve que le livre lui est dédicacé.
Oui.
Il est dédicacé à Jean-Jacques Goldman. Est-ce que je peux vous demander s'il a réagi à la dédicace, Karine Hazan?
On lui a envoyé le manuscrit il y a près de 6 mois pour avoir son accord, et on n'a pas eu de ses nouvelles, mais on sait qu'il l'a lu et du coup on a pris son silence pour un accord tacite et pour de la bienveillance. De toute façon, on avait joint au manuscrit avec mon éditrice Marie-Eugène une lettre pour lui dire que c'était une espèce d'offrande un peu déglinguée d'une disciple un peu folle à son idole, mais qu'il n'y avait rien de désobligeant, bien au contraire.
Oui, parce que écrire, et vous en parlez dans le livre, écrire sur une célébrité, sur une personne qui existe, ça peut parfois générer pas mal d'ennuis. Vous faites référence à Grégoire Delacour,
par exemple,
son livre sur, avec notamment Scarlett Johansson.
Bien sûr, mais j'ai eu très peur de ça, parce que pendant que j'écrivais, des copains m'ont dit ça, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que surtout qu'il n'était pas question... En fait, ce bouquin, il n'est pas du tout documenté sur Goldman. Je parle très peu de lui, finalement. Je parle de ce qu'il provoque chez moi, enfin chez la narratrice. Donc, j'avais pas du tout envie d'écorner son image. Enfin, pourquoi, quoi? Je voulais surtout parler de ce que c'était que s'entortiller comme ça autour d'un nom et essayer de définir son identité un peu floue grâce à quelqu'un qui est sur le devant de la scène.
Voilà, et grâce à ces chansons qui sont très présentes dans le livre, notamment avec des petits mots écrits en italique et qui font directement référence aux paroles des chansons, et avec aussi beaucoup d'ironie. Merci beaucoup, Karine Hazan.
Merci.
Jean-Jacques est paru, je le rappelle, chez HarperCollins.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Les théâtres français sont toujours dans l'expectative. Impossible pour le moment de savoir quand ils pourront rouvrir leurs portes. Cela dépendra bien sûr de la situation sanitaire. En attendant, publics et professionnels trépignent et les idées ne manquent pas pour proposer des expériences de spectacle vivant, mais à distance. Après une première expérience en novembre avec l'Opéra de Paris, le réseau social Facebook France proposait hier, dans le cadre de son programme Ensemble au spectacle, une nouvelle diffusion payante et en direct depuis le Théâtre Rive Gauche à Paris. Notre RTT, notre reporter tout-terrain Fanny Blechner, a donc pu suivre la pièce Le Petit Coiffeur depuis son canapé.
Quelques secondes avant le début de la représentation, les commentaires bruissent sur le live comme des murmures avant le lever de rideau. « Que c'est bon de venir au théâtre », écrit l'un. « J'aimerais une glace, où est l'ouvreuse ?» plaisante un autre. Puis un peu avant 15h30, la vidéo live s'affiche. Nous sommes accueillis par Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce, dans la rue de la Gaîté où se trouve le théâtre.
Écoutez, je suis vraiment tellement heureux de vous faire traverser la rue de la Gaîté pour qu'on rejoigne notre théâtre Rive Gauche. et vous présenter notre petit coiffeur.
On a traversé une rue de la Gaîté qui malheureusement porte très mal son nom en ce moment, mais c'est une rue extraordinaire. Elle doit faire 300 mètres, il y a 6 théâtres et plein de cafés, plein de bars, plein de restaurants. Et cette cité complètement interdite, on va le dire, complètement vide comme ça, c'était assez... Je tenais à montrer quand même où on en était, parce que c'est aussi un appel au secours. Hein.
Toujours derrière nos écrans, nous le suivons ensuite dans les loges où les comédiens ajustent leur dernière retouche maquillage. Petit tour d'horizon des différents professionnels qui s'activent.
On a vu tous les gens qui travaillaient pour la captation, on a vu l'habilleuse qui faisait le travail, les réglages de lumière. Le théâtre, ça emploie, on se dit, il y a 5 comédiens, mais autour de 5 comédiens, il y a à peu près 4 fois plus de personnes autour, même 5 fois plus. Le spectacle vivant fait travailler énormément de monde.
L'émotion est palpable, les comédiens se serrent dans les bras, puis ils entrent en scène. La pièce se déroule sous l'occupation et s'inspire de la célèbre photo de Capal attendue de Chartres.
Je viens de faire une chose que je ne pensais pas capable de faire. Elles étaient 11. 11 femmes à tondre. 11 femmes que j'ai tendues mécaniquement les unes derrière les autres comme un troupeau de brebis.
Dans la colonne sur la droite de la vidéo, les spectateurs réagissent toujours, saluant surtout le jeu des acteurs. Arnaud Dupont interprète Jean. Bien sûr, il préfère réjouer devant un vrai public, mais l'émotion était bien là.
On sait quand même que des gens sont en train de le regarder. Enfin, moi, par exemple, je sais que ma famille dans les Landes était devant leur écran. Ils avaient branché Facebook sur la télé pour pouvoir le voir en se réunissant à 4-5. En le sachant, ça veut dire qu'on vraiment, on est en direct, donc on s'adresse à eux. Donc ça, le trac et l'énergie, la tension de l'acteur, elle est la même. Après... Là, ce qui était troublant, c'était les saluts. Là, ça a été assez révélateur, où on se met à saluer. Là, pas d'applaudissements. Là, il y a quelque chose qui nous met en face de la réalité actuelle, qui est dure.
Dans la salle, en effet, pas de spectateurs, mais 5 caméras. Jean-Philippe Daguerre n'a pas voulu revoir la mise en scène pour autant.
C'était aux caméras de trouver le moyen de montrer du théâtre et non pas un théâtre qui ressemble à un téléfilm ou à du cinéma.
L'expérience est aussi différente parce qu'elle est payante.
Déjà, le fait que les gens doivent être au rendez-vous à telle heure, payent leur place, il y a quand même une démarche, c'est-à-dire... C'est pas style j'essaye, je regarde sur mon téléphone et hop, au bout de 10 minutes j'arrête et tout ça. Et là, c'est quand même une démarche parce que déjà, quand on achète une place, c'est ce qu'on a envie, quoi.
En effet, les places sont à 8,99€. Cette somme revient entièrement au théâtre qui a été démarché par Facebook en cette période de crise. Nathalie Cheswick est la co-directrice du Théâtre Rive Gauche.
Nous n'avons aucun chiffre d'affaires, aucun. Donc aucune rentrée financière. Hormis les aides qui sont allouées par l'État, ce n'est que pour une unique représentation. Donc on ne va pas faire notre chiffre d'affaires mensuel sur cette unique représentation, mais ça nous permet aussi qu'on ne nous oublie pas.
Ce matin, plus de 1000 personnes avaient acheté leur place. Quand la salle traditionnellement peut en accueillir 400, une autre façon de toucher le public.
On espère aussi que ça suscitera des vocations de spectateurs à des gens qui ne vont peut-être jamais au théâtre et qui vont se dire, bah, tiens, le théâtre finalement, sous cette forme-là, on a peut-être envie d'aller vraiment pour de vrai dans la salle.
Plusieurs web spectateurs ont déjà promis qu'ils répondraient présents pour la réouverture du théâtre. En attendant, l'expérience pourrait bien être réitérée.
Reportage de Fanny Blechner et la pièce Le Coiffeur est accessible en ligne sur Facebook, toujours dans une version payante, donc jusqu'à demain, 23h, heure de Paris. On a appris également ce lundi après-midi le décès d'un très grand comédien de théâtre et de cinéma, Jean-Pierre Bacri. Il avait 69 ans. On se souviendra évidemment très longtemps de ses nombreux films et pièces de théâtre, notamment Cuisine et Dépendance, Place Publique, Le Goût des Autres. Il avait tourné avec de très grands réalisateurs, en particulier Alain Resnais. On se souviendra aussi bien sûr de tout ce qu'il a fait avec celle qui fut longtemps sa compagne, la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui. On a eu la chance de le recevoir dans cette émission il y a quelques années. On pense évidemment beaucoup à lui, à Agnès Jaoui et à tous ceux qui l'ont beaucoup aimé et qui continueront évidemment à le voir à la télévision. Dans une poignée de secondes, l'info sur RFI. On reviendra bien sûr sur le décès de Jean-Pierre Bacri dans les journaux de RFI. On se retrouve demain, quant à nous, avec Bernard Pivot qui publie un roman intitulé « Et la vie continue » aux éditions Albin Michel. Et vous m'en direz des nouvelles. RFI.